Voici le quatrième épisode de ma série de podcasts consacrée à l'année 1982. Aujourd'hui, j'ai retenu qu'en 1982, les homos sont traités comme des hétéros, que cette année-là, la semaine ne fait plus que 39 heures. Mais je vous raconte aussi comment l'année 82 fut dramatiquement touchée par de nombreux attentats en France.
1982, on de la raconte sur Europe 1.
À l'été 1982, a lieu la Coupe du monde de football en Espagne. Le 8 juillet, la France peut rêver d'une finale. Il ne lui reste qu'à battre l'Allemagne en demi-finale. Mais à 22h, drame national. On est en pleine deuxième mi-temps. Le défenseur Patrick Battiston se blesse au cours d'une agression assez violente avec le gardien allemand Harald Schumacher. Verdict du docteur Vriac, médecin de l'équipe de France. Traumatisme de la face, commotion cérébrale et perte de dents.
On peut dire que ce qui lui arrive là est quand même relativement grave, puisqu'il s'agit quand même d'une fracture de la colonne cervicale qui aurait pu, si le traumatisme avait été encore un peu plus violent, aboutir à une tétraplégie, voire au décès du patient, puisque la fracture siège effectivement très haut sur la colonne, au niveau de l'axis, qui est la deuxième vertèbre cervicale. Minerve va être confectionnée dès demain et permettra une immobilisation satisfaisante de la fracture, et la guérison s'obtiendra dans les délais habituels, c'est-à-dire que cela prendra environ 4 à 6 semaines d'immobilisation, suivie ensuite d'une période de prudence, d'un délai environ identique, ce qui va l'éloigner des terrains pendant 2 à 3 mois environ.
C'est mal parti, et c'est pas fini. La galère en vérité commence quand une semaine plus tôt, les Bleus héritent des Allemands en demi-finale.
Ce sera donc l'Allemagne de l'Ouest. Les Français retrouveront jeudi en demi-finale à Séville, la seule équipe rescapée parmi les favoris. Maxime Bossy se fait le porte-parole de ses camarades pour nous parler de l'équipe d'Allemagne et du match qui attend les Français.
Je crois que ça va être très difficile contre l'Allemagne parce que malgré quelques matchs un peu ratés de leur part, je crois que c'est quand même, ils ont montré que c'était la meilleure équipe européenne à l'heure actuelle. Et jouer contre l'Allemagne, ce n'est jamais une sinécure et je pense qu'on va beaucoup souffrir.
Et effectivement, les Français souffrent énormément. Leur défenseur Patrick Battiston Sonnet est évacué sur une civière. Et à présent, match épique, le capitaine Platini et ses camarades s'inclinent au tir au but.
On est déçus, écœurés, tout ce que vous voulez. Quel est le ressentiment profond après ce match, Michel?
Mais je crois qu'on l'a très mauvaise, je crois, parce que quand on mène 3-1, l'arbitre oublie de siffler deux fois de suite sur nous et qu'on prend le but juste avant une minute avant la fin de la première mi-temps des prolongations, je crois que c'est le tournant du match et là vraiment on est écœuré. Je vous assure, on l'avait mauvaise habitude, je suis assez fataliste, je suis bon perdant, mais là non.
À un moment du match, vous étiez pratiquement en Coupe du Monde, vous aviez un pied en Coupe du Monde.
Oui, on avait un pied en Coupe du Monde, c'est en finale de la Coupe du Monde, c'est certain. Mais je vous dis que le deuxième but a tout changé. Et après, quand on joue contre l'équipe d'Allemagne et qu'ils ont des joueurs frais comme Rennegger, Kouboureh, Chirant, alors que l'on mène que 3-2, qu'ils ont un élan, un tel élan, c'est difficile pour nous de tenir. Et on a eu du mal à tenir. Et après les pénaltys, bon ben c'est la pièce quoi.
Michel Platini, les joueurs étaient particulièrement abattus sans doute après cette soirée dramatique.
Ouais, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont craqué, c'est normal. Hein. On a tout fait malheureusement. Mal passé.
Très belle demi-finale de Coupe du Monde et pour moi le plus beau match de la Coupe du Monde. Mais néanmoins, les Français ont manqué d'intelligence, c'est tout. Il n'y a aucune solution, il n'y a plus rien à dire.
Pourquoi l'intelligence?
Parce que moi, j'estime à 3-1, ils ont vu des matchs. Cet après-midi, une demi-finale Pologne-Italie, ils ont vu l'autre jour les matchs contre le Brésil. Ils savent très bien, quand on mène 2 buts d'écart, à un quart d'heure ou 20 minutes de la fin, on ferme le jeu.
Ils ont fait le match qu'ils devaient faire, ils voulaient plaire jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'ils ont tout raté. C'est exactement ce qu'a dit exactement Pelé pour les Brésiliens. Je crois qu'à un certain moment, il faut être intelligent, il faut savoir fermer sa boutique. Seulement, c'est bien gaulois. Ils auraient gagné, ça aurait été les meilleurs joueurs du monde. Malheureusement, ils ont perdu. Honnêtement, je pense avoir vu les plus grands joueurs du monde.
Je pense surtout ne rien reprocher aux joueurs qui ont manqué les pénaltys. Surtout ne rien leur reprocher. Oui. J'espère d'ailleurs qu'à la place des militaires, le 14 juillet, on verra l'équipe de France sur les Champs-Élysées.
Aujourd'hui, l'équipe de France soigne ses blessures morales et physiques. Dans l'immense hall de l'hôtel Méliade d'Alicante, où la délégation française est arrivée vers 4h du matin, les joueurs traînent comme des âmes en peine leur immense déception. Ils n'ont pas encore pris tout à fait conscience d'avoir accompli hier soir à Séville quelque chose d'extraordinaire, d'avoir écrit une des plus belles pages du football français, comme le soulignait ce matin Michel Hidalgo au cours de sa conférence de presse. Faire l'admiration du monde entier, on s'en fout, répondait en écho Michel Platini. Avoir joué le plus beau match du mondial, la belle affaire. Pour nous, ce qui comptait avant tout, c'était la qualification pour la finale. C'est vrai, les footballeurs français sont passés tout près du bonheur. Et ce matin, il ne leur reste pratiquement rien, sinon des traces de coups, des blessures diverses. Le temps de la déception passée, il restera le temps des regrets, le plus long sans doute, car jamais l'équipe de France ne retrouvera une telle chance. Alicante, Fernand Choisel, Europe 1.
Mais les Français sont vengés en finale, car les Allemands sont battus par l'Italie. C'était « Can't Take My Eyes Off You » du groupe Boys Town Gang, un tube de 1982.
1982, on de la traconte sur Europe 1.
Le 29 mars 82, le train Paris-Toulouse arrive en gare de Limoges pour son premier arrêt.
Plus de 350 personnes, dont certaines voyageaient debout dans les couloirs, étaient dans les 15 wagons. Soudain, à 20h40, une formidable explosion fait littéralement éclater le second wagon. Deux passagers sont projetés hors du train, on retrouvera leur corps à plus de 100 mètres dans la campagne. Un incendie se déclare, mais le conducteur du train parvient à éviter le déraillement, alors que la vitesse est à ce moment-là de plus de 130 km/h. Très vite, les secours s'organisent, plus de 200 gendarmes et militaires sont sur les lieux, les blessés sont hospitalisés à Limoges, et à la lueur des projecteurs, on dresse un premier bilan, 5 morts, 27 blessés, dont plusieurs sont dans un état grave. Pendant une grande partie de la nuit, les gendarmes se sont attachés à fouiller minutieusement ce qui reste de la voiture 18 du Capitole. Éventré par l'explosion sur plusieurs mètres, le toit et le plancher profondément déchirés, l'avant du wagon n'était cette nuit qu'un amas de ferraille, et au milieu de ces poutrelles enchevêtrées, les enquêteurs s'efforçaient de recueillir le moindre indice. Limoges, Bernard Abadie, Europe 1.
La conviction de tous de ceux qui étaient justement dans ce compartiment, c'est que dès qu'il y a eu le bruit de... Ils ont senti une odeur âcre de fumée, enfin vraiment comme si ça avait été une bombe. Les secours se sont très bien organisés. Il faut quand même savoir que ça s'est passé en rase campagne, qu'il y avait 2 km à pied pour venir nous secourir. Et tout le monde, personne ne s'est trop affolé, quoi. Ça a été assez rapide.
Il y avait beaucoup de monde dans ce train.
Il était bondé, il y avait même des gens debout.
3 heures après l'explosion, l'agence France Presse reçoit une revendication. Elle est signée « Les amis de Carlos ». Le lendemain de cet attentat, le Premier ministre déclare « Non, la France ne bascule pas dans le terrorisme ». Seulement voilà, 3 semaines plus tard, le 22 avril 82 à 9h, les journalistes d'Europe 1 sont en conférence de rédaction, c'est ce moment où on choisit les sujets pour la journée, quand une énorme explosion retentit. Le journaliste Gilles Schneider se précipite alors dehors.
Nous retrouvons tout de suite pour un flash spécial Jean-François Rabillot.
Oui, c'est Gilles Schneider. Là, je reviens de la rue Marbeuf qui est tout à côté de nos studios, puisqu'à 9h pile, nous avons entendu cette énorme explosion. Il s'agit d'une voiture qui a explosé à 9h pile rue Marbeuf. Vous pouvez imaginer tout de suite qu'il y a de nombreux blessés. Je ne peux pas encore vous dire s'il y a des morts, mais d'après ce que j'ai vu, il y a des blessés graves. La voiture a explosé, elle était piégée devant le siège d'un journal libanais chrétien qui critiquait les positions syriennes au Liban. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Il y a de nombreux blessés. Une voiture a explosé. Pardonnez-moi, j'ai couru pour vous apporter cette information. Toute la rue Marbeuf, toutes les vitres de la rue Marbeuf, évidemment, sont descendues et cela a provoqué d'autres blessés qui, à 9h, se rendaient dans les bureaux, car c'est un quartier de bureaux de la capitale, le quartier des Champs-Élysées. Et puis, à tous ceux qui, en ce moment, sont dans ce quartier, je vous demande instamment d'éviter cette rue Marbeuf et la rue François 1er pour laisser la place aux ambulances et aux secours. Voilà, nous vous donnerons d'autres informations sur cet attentat dès que nous en aurons, bien évidemment. Il est 9h11.
Dernier bilan est de 1 mort et 30 blessés. Une femme qui a été tuée, qui se trouvait dans la rue au moment où la voiture piégée a explosé. 30 blessés, dont 6 sont dans un état grave. Les blessés se trouvaient soit dans la rue, soit dans les immeubles d'habitation ou de bureaux. Lorsque l'explosion s'est produite à 9h02. La bombe avait été placée dans une voiture qui était garée devant le 33 rue Marbeuf. Le spectacle qui s'offre à nous au milieu de la rue Marbeuf est absolument hallucinant. Une dizaine de voitures ont été calcinées dans l'incendie qui a suivi l'explosion. Et une dizaine de magasins, de restaurants sont littéralement éventrés. C'est un spectacle de bombardement. La voiture piégée a été tellement déchiquetée que pour l'instant, les enquêteurs n'ont même pas pu déterminer le type du véhicule. Et le parcmètre qui se trouvait à côté de la voiture est littéralement plié en deux. Et c'est une femme qui se trouvait, qui a un tailleur bleu, qui se trouvait en face de la voiture qui a explosé, qui se trouvait devant un tabac, qui a été tuée, littéralement déchiquetée. Et pour l'instant, donc, un mort et 30 blessés, mais pour les enquêteurs, vous l'avez dit, il ne fait aucun doute, il s'agit bien d'un attentat.
Le bilan est terrible. Un mort, une femme, et 63 blessés. L'attentat de la rue Marbeuf et du train Paris-Toulouse se produisent juste après l'arrestation de Bruno Breguet, un ami de Carlos, et après l'arrestation de Magdalena Kopp, la petite amie de Carlos. Les terroristes avaient donné un ultimatum au gouvernement pour les libérer. L'attaque du train Capitole correspond à l'expiration de cet ultimatum. Deuxième attentat donc. Et ça n'est pas fini du tout. Le 20 juillet 1982, un colis piégé explose devant la terrasse d'un café de la place Saint-Michel, à Paris. 15 blessés. 4 jours plus tard, une bombe explose dans les toilettes du drugstore Saint-Germain. 2 blessés légers. Ces attentats sont cette fois revendiqués par un groupe terroriste arménien. Et puis quelques jours plus tard, le 9 août, nouvel attentat dans le quartier du Marais, à Paris. Le quartier juif.
Voici un télégramme de l'agence de presse qui me paraît très important. Des coups de feu à Paris, près de la synagogue de la rue des Rosiers. Il y aurait un mort et 7 blessés. Un groupe d'hommes a ouvert le feu près de la synagogue de la rue des Rosiers à Paris, dans le 4e, faisant un mort et 7 blessés. Selon un premier bilan, les raisons de cette fusillade sont encore inconnues. Je viens de vous dire là, donc, le télégramme que le Télégramme m'apporte à l'instant et qui est daté, donc, de Paris 9 août, à cette heure-ci. Exactement. Je pense qu'avant la fin du journal, qui se terminera vers 33 aujourd'hui, vers 13h33, nous aurons quelques précisions sur cet attentat à Paris, rue des Rosiers.
Monsieur, on était devant ma boutique. On a vu une voiture blanche, des gens qui sont descendus. Ils étaient tous habillés en costume gris. Et ils ont commencé à tirer sur tout ce qui bougeait. Ils sont venus...
Dans la rue ?
Non, ils sont venus pour tuer du juif, pas autrement. Seulement, malheureusement, il y a eu même des Arabes qui ont été tués. Et heureusement pour nous. Et ces Arabes, ils travaillaient chez des juifs. D'ailleurs, vous pouvez le constater, vous allez chez Goldenberg, où il y a eu l'attentat, ils ont jeté une grenade, ils sont rentrés avec la mitraillette en train de tirer. Moi, je voyais. Une fois qu'on a bien regardé, ils se sont retournés vers nous, ils nous ont poursuivis. Ce qui nous a sauvé la vie, c'était le deuxième étage.
Et il y avait beaucoup de monde dans le restaurant au moment où ça s'est produit ?
Eh bien, tous les clients sont passés, monsieur. Il n'y a pas eu de survivants. Oui. D'ailleurs, vous pouvez constater vous-même, il n'y a rien eu comme survivants. Mais ils sont venus pour tuer du juif.
Les terroristes sont entrés à 13h dans le restaurant Goldenberg. Ils ont d'abord jeté une grenade. Et ensuite, ils ont tiré sur les clients. Ça n'a duré que 3 minutes, mais le bilan est terrible. 6 morts, 22 blessés. Parmi les survivants, le patron, Joe Goldenberg. Juste après l'attentat, il rencontre le Premier ministre Pierre Mauroy. Et le micro d'Europe 1 est là.
Je ne jette pas la pierre à personne, sauf que, évidemment, on doit être plus vigilant. Et de plus en plus... aussi bien dans l'intérêt des Français que dans l'intérêt des Israéliens. J'espère qu'on arrivera à démonter tout ce terrorisme. Et ce n'est pas pour autant que je vais abdiquer. Et si j'ai tenu
pas du tout abdiqué, hein.
Jusqu'à maintenant, je continuerai à tenir, quoi qu'il arrive, parce que j'ai vécu des circonstances qui ont toujours été très difficiles, et j'ai l'habitude. Malheureusement, je suis maintenant très touché par mes collaborateurs que j'ai perdus. J'espère pouvoir faire pour la famille ce que je ferai comme pour la mienne.
Écoutez, moi je suis ici pour saluer les victimes.
Je vous remercie d'être venu, monsieur
le ministre. De notre solidarité, oui. Notre sympathie, de tous les proches.
Pardonnez-moi de mon émotion.
Non, non, mais
je ne pouvais pas m'en
elle, elle est tout à fait compréhensible et légitime. Et assurer de ma sympathie toute cette communauté juive qui sont frappées ici au cœur de Paris, dans ce quartier. Et puis vous dire que la France qui veut la paix partout dans le monde n'accepte pas que le sang innocent soit ainsi versé. Et que le gouvernement mettra tout en œuvre pour arrêter les criminels de ce lâche attentat et pour assurer la protection de ceux qui habitent le quartier et plus généralement des Français.
Les cris que vous entendez sont l'accueil réservé à M. Defer peu avant 20h aux alentours de la synagogue. Le ministre est arrivé à pied, conspué et même bousculé par plusieurs centaines de personnes, apparemment des jeunes juifs du quartier. Les manifestants scandant des slogans hostiles au gouvernement. Cerné par la foule, M. Defer ne pouvait plus avancer. Il a même été atteint au visage par des boulettes de papier et de vieux journaux. Finalement, après un moment de flottement, le ministre a pu passer. Quelques instants après, le président de la République est arrivé, mais en voiture, il est ainsi passé sans encombre.
J'ai toujours été, et je suis l'ami de la communauté juive de France. Et je suis venu m'associer à sa douleur. Comme je l'ai toujours fait. Aujourd'hui, un nouvel attentat, attentat commis par des lâches, vient de nouveau d'ensanglanter cette communauté. Comme vous le faites vous-même, je m'incline devant les victimes. Et je dis que ce fanatisme-là, comme tous les fanatismes, me trouvera devant lui.
Lorsqu'il prononce ces mots, Mitterrand est conspué. Mitterrand assassin, Mitterrand trahison. Car la foule lui reproche sa politique palestinienne. L'attaque antisémite de la rue des Rosiers n'a jamais été revendiquée. Mais l'enquête a permis de démontrer qu'elle était l'œuvre du Fatah Conseil révolutionnaire d'Abou Nidal, un groupe terroriste palestinien. Kim Wilde avec avec son titre « Cambodia », disque de platine en 1982.
Ondelat raconte sur Europe 1.
Nous poursuivons le dernier épisode d'Ondelat raconte consacré à l'année 1982 et nous évoquons une mesure sociale comme on n'en avait pas vu depuis 1936. L'idée du président de la République François Mitterrand est d'allécher le temps de travail en passant de 40 heures à 39 heures hebdomadaires. Sur le papier, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les travailleurs. Mais André Bergeron, le secrétaire général de Force Ouvrière, y trouve encore à redire.
Si on donne le choix aux gens, partir une heure plus tôt le vendredi et perdre 100 francs à la fin du mois, ils choisiront de garder les 100 francs parce que ça fait partie de la vie, parce qu'il y a des obligations qu'il faut satisfaire, parce qu'on a pris des engagements, tout ce que vous voudrez. D'autre part, le gouvernement veut relancer la consommation intérieure. Pour relancer la consommation intérieure, il faut accroître le pouvoir d'achat. Or, si on faisait ce que d'aucuns disent, ça se traduirait par l'inverse. Il faut compenser intégralement la diminution du temps de travail. Moi, je ne crois pas beaucoup, vous savez, à toutes ces grandes théories de partage du travail, de partage des revenus. Tout ça, c'est relève du rêve. Dans mes réunions, quelle est la préoccupation dominante maintenant ? Permettez-moi de vous dire, c'est pas tellement la réduction du temps de travail. C'est le problème des salaires, c'est le problème du pouvoir d'achat.
Mais en janvier 82, le Premier ministre Pierre Mauroy rassure les syndicats. Tout le monde doit faire un effort pour que les salariés ne soient pas perdants.
Il n'est pas envisageable que les travailleurs gagnent moins fin février que fin janvier. Mais le gouvernement a le souci d'utiliser cette politique pour lutter aussi contre le chômage. Si la diminution de la durée légale doit s'effectuer sans diminution du pouvoir d'achat, il faut que les négociations entre partenaires sociaux permettent d'aller plus vite et plus loin dans la réduction du temps de travail. Car c'est ainsi que nous créerons de l'emploi.
Finalement, la loi passe en janvier 82. Les Français travaillent 39 heures par semaine au lieu de 40 et ils obtiennent une cinquième semaine de congés payés. Et voici au micro d'Europe 1, une assistante sociale ravie.
Moi je trouve qu'une demi-heure de moins le soir, ça se ressent vraiment. Finir plus tôt, avoir moins de monde dans les transports, pour celles qui habitent en banlieue, prendre des trains plus facilement, oui, c'est appréciable. C'était d'ailleurs demandé le soir, et ni à l'heure du déjeuner, ni le matin.
C'est appréciable pourquoi ? C'est un travail fatigant ?
C'est un travail, travailleur social, oui, quand même. On ne peut pas faire 8 heures par jour de travail social, recevoir des gens pendant 8 heures, c'est pas possible. Hein. Il faut un temps pour tout, il faut un temps pour recevoir, pour réfléchir, pour se concerter. Parce que c'est quand même un travail, des fois, qui est difficile à supporter, qui est pénible. Une demi-heure de moins, c'est appréciable.
Chaque profession ou entreprise applique sa propre formule. Dans les banques, les horaires sont réduits chaque jour d'une manière microscopique, c'est-à-dire que les employés quittent leur poste à 17h18 au lieu de 17h30. D'autres entreprises restent aux 40 heures, mais donnent un jour de plus de repos.
Nous allons prendre une mesure transitoire, c'est-à-dire qu'en accord avec le comité d'entreprise, nous allons continuer l'horaire actuel de 40 heures par semaine, tout en réservant une heure par semaine de congé. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, nous aurons 4 heures et nous allons poursuivre cet horaire pendant le mois de mars, ce qui va nous permettre de cumuler 8 heures de congé. Ces 8 heures de congé seront à valoir sur un pont.
Vous préférez ce système à celui qui consisterait à payer la 40e heure en heure supplémentaire ?
Oui, nous préférons ce système. Nous sommes opposés aux heures supplémentaires, sauf dans des conditions très accidentelles. Mais d'une façon habituelle, nous préférons éviter les heures supplémentaires et éviter que le personnel prenne l'habitude d'heures supplémentaires qui sont nuisibles pour sa santé.
Vous n'auriez pas préféré gagner plus d'argent ?
Oh. Non, bien sûr, pour certaines personnes sûrement c'est plus valable, mais enfin c'est pareil, après il faut leur donner un impôt.
L'important c'est de ne pas avoir de baisse du pouvoir d'achat déjà.
Voilà, c'est ça, de maintenir son pouvoir d'achat et puis d'avoir plus de temps à profiter de la vie et puis de ses enfants.
Il met de la magie mine de rien dans tout ce qu'il fait.
il a le sourire facile même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Comme il n'a pas d'argent pour faire le grand voyageur, il va parler souvent aux habitants de son cœur. Qu'est-ce qu'il se raconte? C'est ça qu'il faudrait savoir. Pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler.
Il est libre, Max, d'Hervé Christiani, cinquième des ventes de 45 tours en France en mars 1982.
1982, Ondelatte raconte sur Europe 1.
Jusqu'en 1982, l'âge de la majorité sexuelle pour les hétérosexuels est de 15 ans. Mais pour les homosexuels, elle est de 21 ans. Ça veut dire concrètement qu'un homo n'a pas le droit de coucher avec un autre s'il a moins de 21 ans. Une injustice qui ne peut plus durer. Et donc le 10 mai 1982, le gouvernement socialiste abroge l'alinéa 2 de l'article 331 du Code pénal. Et la même année, en plein été, Europe 1 organise dans son émission Radio Libre une table ronde de plus d'une heure et demie consacré à l'homosexualité.
François Jouffa, Viviane, Radio Libre à l'homosexualité.
Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis le 10 mai? Je vais d'abord poser la question à Gilles Barbedette, qui a 24 ans, qui est professeur, qui est journaliste, qui a écrit un bouquin en collaboration avec l'un de ses camarades qui s'appelle Paris Gay 1925. Depuis le 10 mai.
La première chose, c'est qu'Europe 1 a fait une émission sur l'homosexualité, ce que cette chaîne de radio n'avait jamais fait. Il y a plein de choses qui sont passées depuis le 10 mai. La première, c'est qu'il y a par exemple une radio gay, fréquence gay. Il y a un certain nombre de choses qui se sont passées, effectivement.
Dominique, qui est chargée de relations publiques dans l'industrie.
Personnellement, je ne pense pas qu'une loi ou des changements de politique puissent beaucoup changer l'idée que peuvent avoir nos familles ou les gens qui nous entourent sur l'homosexualité. L'homosexualité, pour moi, n'est pas un problème de politique, mais un problème de vécu. Donc, d'aimer ou pas d'aimer, il n'y a pas de grands changements radicaux ni dans ma vie, ni dans ceux de beaucoup de gens que je connais.
Enfin, il y a quand même une différence qu'il faut noter, malgré tout, sans hypocrisie, c'est que les pouvoirs publics, eux, ont changé leur attitude vis-à-vis des homosexuels. De l'homosexualité, ça, je n'en sais rien. Les homosexuels, ça, c'est une chose qui est certaine. Par exemple, on peut dire que c'est la première fois que les organisations homosexuelles ou les représentants patentés des homosexuels, j'en sais rien, ont été reçus dans des ministères, qu'il y a eu, par exemple, des circulaires du ministre de l'Intérieur de Gaston Defferre. Les Français ne le savent peut-être pas, les policiers non plus, destinés justement...
Pas encore,
mais ils vont le savoir au cours de l'émission, et qui enjoignent à ne plus commettre de discrimination pour les homosexuels. Et également, quand même, je veux dire, le 20 décembre, il y a eu une abrogation d'un article absolument scandaleux de loi qui avait été voté sous Vichy, et le ministre de la Justice a dit, eh bien, il faudrait que... Enfin, la France, grand accent, songe à tout ce qu'elle doit aux homosexuels. Bon, on n'avait jamais entendu ça dans un parlement pendant 2 heures.
Radio Libre, l'homosexualité.
La plus belle fois qu'on m'a dit je t'aime, c'était un mec qui me l'a dit. La plus belle fois qu'on m'a dit je t'aime, un mec qui me l'a dit.
Voilà, la plus belle fois qu'on m'a dit je t'aime, c'était Francis Lalanne.
Moi, c'est Jean-Pierre, instituteur, 35 ans, bientôt 36. Et Pierre, instituteur spécialisé, 36 ans.
Alors bon, un couple d'homosexuel, c'est quoi? Est-ce que c'est comme dans un couple hétéro où les rôles sont vraiment bien séparés? Comment ça se passe pour vous?
A priori, il n'y a pas de grosse différence avec un couple hétéro, à mon avis. On en connaît d'autres, des couples. Chez certains, les tâches ne sont pas très définies. Bon, dans le nôtre, c'est plutôt très clair, oui. Pierre est plutôt la maîtresse de maison. Et puis moi, je m'occupe de pas grand-chose. Je suis un peu oisif dans l'histoire. Non, je m'occupe plutôt de nos loisirs.
On ne s'est pas fixé une tâche comme ça de manière bien précise. Non, je crois que ça s'est fait par affinité. On avait envie de faire ça plutôt qu'autre chose. C'est moi qui prends la parole, donc en principe c'est moi qui donc joue le rôle de la maîtresse de maison. Mais enfin, je pense qu'il n'y a pas à se sentir un rôle bien précis. C'est faux lorsqu'il dit que c'est plutôt moi qui m'occupe de tous ces problèmes. Enfin, je pense qu'il n'est pas du tout gêné pour le faire également. On ne s'est pas fixé à aucun moment. C'est toi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. C'est faux.
Bon, je pense que chez nous, en plus, on a un gros avantage par rapport à beaucoup de couples homosexuels. C'est qu'on est égalitaire à tout point de vue. On a le même métier, donc à peu près le même salaire, les mêmes horaires, les mêmes vacances, à peu près le même âge. Il n'y a pas le vieux et le jeune, il n'y a pas celui qui gagne beaucoup, celui qui gagne moins. Donc il n'y a pas celui qui décide et celui qui subit. Et je crois que ce côté égalitaire a fait que notre couple a duré peut-être beaucoup plus que d'autres. Bon, ça fait 14 ans qu'on est ensemble et on n'a jamais connu mieux.
Le problème de la fidélité, comment ça se passe chez vous?
Alors, pour la fidélité, il n'y a jamais eu d'accord tacite au départ. Je crois que ça s'est fait doucement. Pendant très longtemps, on a vécu un petit peu en circuit fermé. Et puis, on a eu des envies, chacun de notre côté. On ne les a pas satisfaits, pas parce qu'on avait peur d'être infidèle, mais parce qu'on avait peur de faire de la peine à l'autre. Et finalement, ça s'est arrangé d'une manière très simple. C'est-à-dire que depuis quelque temps, nous avons des amants, mais les mêmes. Nous avons des amants communs. Et c'est vraiment très très agréable.
Beaucoup de gens prennent la parole au cours de cette émission. Et un témoignage marque les esprits. Celui de Roland Aurivel, 77 ans.
Donc j'ai rencontré mon amie, celle qui devait partager ma vie, le 15 octobre 1932. Et elle m'a été enlevée par la mort le 3 octobre 1975. Ce qui donc donne 43 ans d'amour constant et plus de bonheur, parce que jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup parlé du bonheur. L'amour, faire l'amour, avoir de l'amour, changer l'amour, ça, c'est tout à fait courant. Mais construire toute une vie où il n'y ait pas de mésentente, sauf des choses absolument minuscules. Avoir une vie totale remplie par un échange, par une espèce d'osmose, je crois que ça n'est pas très courant. Je ne le dis pas à ma propre gloire. Je le dis en pensant à toutes celles, peut-être, dans le fin fond de la France, qui nous écoute, je le souhaite, ce que j'appelle la majorité silencieuse, monsieur. Il y a des femmes qui vivent, il y a des femmes qui s'aiment, il y a des femmes qui ne font pas de bruit, et il y a des femmes qui connaissent le bonheur. Je ne peux pas parler pour les garçons. Cet amour, j'ai eu une chance extraordinaire. Et une chance extraordinaire d'abord, parce que j'ai eu des parents intelligents. J'ai une mère qui m'aimait, qui nous aimait, puisque j'ai une sœur qui nous aimait également, et d'un amour maternel, vraiment ce qui s'appelle sans reproche, en ce sens que lorsque ma mère s'est aperçue que mes goûts me portaient, mais d'une façon irrésistible, lorsque je lui ai fait sentir, je lui ai donné des preuves morales, j'entends, eh bien elle a trouvé que le plus sage était non seulement de me laisser vivre ma vie, mais encore de considérer, ça a été le cas pour mon ami, je vous dis, avec lequel je suis resté 43 ans. Avant, j'avais déjà eu, parce que comme je l'ai connu à 28 ans, j'étais tout de même pas resté depuis mon plus jeune âge jusqu'à 28 ans. Bon, enfin, j'ai déjà vu une chose. Et ma mère, à ce moment-là, a considéré mon ami comme sa troisième fille. Elle lui a du reste permis de la tutoyer, elle est devenue absolument, elle est rentrée dans la maison, elle n'a fait, nous étions trois. Ma mère est morte dans nos bras, à toutes trois, c'est-à-dire ma sœur, mon amie et moi.
1982, Ondelat raconte sur Europe 1.
5 heures du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Clac, fais le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent. L'alcool, ça grise et ça commence. Font les moutons sur le parquet.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait?
Je crois que j'ai remis la radio.
Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît.
Précipice. Du mat, faut que je trouve à boire, liqueur forte ou café noir. Je brûle un feu rouge, police patrouille, je serre les fesses, y'a rien qui presse. 4, 5 francs maros, crie le petit chose dans le matin rouge, car mon ondine sous ses comptines. Tout près d'une poste, y'a un petit bar, je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4 patibulaires, tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine sirote sa fille. Elle dit champagne, je l'accompagne, elle dit 50, je dis ça me tend.
Et vous êtes rentré comment?
Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio.
Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît.
Sous mes pieds, il y a la terre.
Sous tes pieds, il y a l'enfer. Chacun fait ce qui lui plaît.
Pas jouir.
Tant pis pour toi, il faut dormir.
Chacun fait ce qui lui plaît. C'était Chagrin d'amour en 1982. Ben voilà. Ainsi se termine notre série en 5 épisodes consacrés à l'année 1982. Vous trouverez sur votre application de podcast d'autres séries consacrées à d'autres années.
Retrouvez Ondelat raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.